Mathieu Roy, bonjour.
Oui.
Alors là, tu veux me faire voir une vidéo que tu viens tout juste de m'envoyer.
Oui, tu vas voir, c'est l'utilisation médicale de Pokémon Go. En fait, de la technologie en arrière de Pokémon Go. Tu te souviens, il y a 3-4 ans à peu près, là, je t'avais parlé de ce jeu qui utilisait la caméra de notre téléphone pour ajouter à notre environnement autour de nous des petites bestioles qu'il fallait capturer. Cette technologie-là de réalité augmentée, elle s'est bonifiée, elle s'est grandement améliorée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes capable, si vous faites des vidéoconférences avec vos enfants, vos amis, vous pouvez vous ajouter des lunettes, des visages farfelus qui vont vraiment être en superposition à un endroit précis de votre visage. Les lunettes ont vraiment l'air d'être sur votre nez quand vous utilisez les effets de réalité augmentée. Eh bien, voilà que l'hôpital général juif a utilisé la technologie de Microsoft, c'est-à-dire leur lunette qui s'appelle HoloLens, pour pouvoir, comme ça, traiter des patients à distance. Donc, pour réduire les contacts directs entre les membres du personnel et les patients, mais être capable quand même d'avoir des soins personnalisés à une époque où, bien sûr, la proximité physique peut constituer une espèce de danger. Donc, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ce casque-là, dans le fond, il y a une espèce de vitre qui laisse à son utilisateur voir, évidemment, l'environnement autour, voir le patient, voir les appareils aussi qui peuvent être reliés au patient. Et comme c'est une transparence, on peut quand même ajouter en superposition, parce que c'est un écran aussi, donc des données, des informations. Donc, ça veut dire que la personne qui porte ce casque-là peut s'approcher d'un patient, mais peut quand même, avec les membres d'une équipe, interagir avec ces différents types de professionnels. Par exemple, une infirmière, super infirmière, un médecin aussi pourrait être en contact avec un pneumologue et pourrait recevoir les informations via cette espèce de casque. Mm-hmm. Et ce qui est fou, c'est que la personne à distance pourrait afficher des dossiers ou des radiographies à la personne qui porte le casque, donc pour lui donner des informations supplémentaires sur le fameux patient.
Elle voit le patient, puis à côté, elle voit aussi, de ce que je comprends, là, parce que j'ai regardé, une radiographie des poumons du patient, par exemple, mais qui n'existe pas en réalité. Le médecin la voit parce qu'il l'a dans son viseur, mais évidemment, ça n'existe pas en réalité, là.
Exactement. Okay. Et si, par exemple, la personne est moins familière avec un appareil, eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'à distance, dans le champ de vision de la personne qui porte le casque, le médecin à distance pourrait dessiner ou pointer, par exemple, des boutons.
Appuyer sur ce bouton-là.
Exactement. Et ça, j'ai vu des applications comme ça dans le milieu industriel. Lorsqu'il y avait, par exemple, une série de tuyaux ou encore des manettes, des leviers à bouger, j'avais vu beaucoup de démonstrations avec ce fameux casque, le HoloLens, mais en situation médicale, j'en ai pas vu souvent. Ouais. Et évidemment, ça offre beaucoup plus de précision et de possibilités que la fameuse vidéoconférence. Donc, on a fait une série de simulations pour l'instant qui ont été réussies. La technologie a même été utilisée à distance pour soigner les plaies d'un patient et c'était guidé par une infirmière qui était spécialisée là-dedans, donc à distance. Ouais. Et on serait prêt à utiliser cette technologie-là pour l'éventuelle deuxième vague de COVID-19. Mais qu'il y ait deuxième vague ou non, ce que je peux affirmer, c'est que ces apprentissages-là ne sont pas en vain parce que ça pourrait servir pour différents types de maladies, de diagnostics. Mmh. Et je pense que dans certains cas, bien utilisés, ça pourrait aussi maximiser l'efficacité de certains corps professionnels dans le domaine de la médecine. La démonstration, en tout cas, elle est intéressante. Évidemment, c'est un communiqué qui a été émis par l'Hôpital général juif. J'aimerais savoir ce qu'en pensent vraiment ceux qui l'ont utilisé. Oui. C'est pas parfait au début, mais je pense qu'avec un peu d'ouverture, on est capable de faire quelque chose d'hyper intéressant et de performant.
Mais il faut commencer quelque part, puis ensuite, tu l'améliores au fur et à mesure de l'expérience.
C'est la façon de
l'apprentissage.
Exact. Bon. J'ai vu ces démonstrations-là avec des moteurs. C'était incroyable de voir à distance un élève qui recevait des directives par un spécialiste qui a travaillé sur la confection d'un moteur, dire non, là, ça te prend une clé de telle taille pour visser ça d'un quart de tour. Puis il y avait des flèches, il y avait des espèces de flèches rotatives qui montraient dans quel sens tourner. La ligne est très mince entre ça puis le corps humain. Là, je veux dire, l'application, la voilà.
C'est de la mécanique humaine. Bon, Google Maps va faciliter vos déplacements à vélo.
Oui, et déjà depuis 10 ans, on sait qu'il y avait des itinéraires à vélo dans Google Maps. Oui. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que les demandes d'itinéraires à vélo ont augmenté de 456 % à Montréal seulement.
Ah oui?
Parce qu'évidemment, les habitudes de cyclistes ont changé énormément avec l'évolution de la COVID-19.
Ouais.
Vous avez sans doute constaté qu'on a fait beaucoup plus de place à certaines voies cyclables au détriment et au grand dam de certains automobilistes.
Ouais.
Et lorsque vous cherchez, par exemple, un itinéraire avec Google Maps, un itinéraire à vélo, vous allez savoir souvent quel type de surface, s'il y a des obstacles, est-ce que ça va être en pente ou encore si ça va être plat, c'est-à-dire allez-vous arriver trempé au travail ou non. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on va maintenant avoir, et ça sera à partir d'aujourd'hui et la mise à jour se fera dans les prochains jours, si vous cherchez comment vous rendre à une destination en bicyclette, vous verrez aussi les indications qui vont comprendre des informations sur les vélos en libre service.
Okay.
Donc, vous allez savoir comment vous rendre à pied aux bornes les plus proches, la borne la plus proche de votre point de départ. Et après ça, on va vous dire la disponibilité des vélos en temps réel. Est-ce qu'il en reste 4 sur 25 ou quelque chose comme ça?
OK, mais comment on va faire pour évaluer le temps de déplacement? Parce qu'en voiture, tu sais, tu te fies à peu près aux limites de vitesse normale pour évaluer que, mettons, entre tel point, ça va te prendre, je ne sais pas moi, 1 heure ou 1 heure et 10. Mais là, en vélo, il n'y a personne qui roule à la même vitesse.
Oui, ben c'est ça. Habituellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une espèce de moyenne en fonction des données qu'ils ont. Je suppose que ça doit être quelque part entre 7 et 15 km heure. Là. Eux, ça peut peut-être te surprendre, mais Google a pas mal d'informations sur nous et ils sont capables de faire la distinction, savoir si tu es en train de marcher ou si tu es en train de faire de la bicyclette. Ouais. Puis ils doivent évaluer à peu près là, autour de 10-15 km heure, probablement, la vitesse moyenne. Mais ici, la grande nouveauté, c'est vraiment d'être capable de dire, vous pouvez faire le trajet en vélo avec votre bicyclette, voici le parcours, ou encore, si vous voulez un vélo partage, donc une borne Bixi, voici à pied où vous devez aller.
Oui.
Et lorsque vous allez arriver à votre destination, voici où vous devez laisser votre vélo, parce qu'il y a, au moment où on se parle, il y a 10 espaces de disponibles sur 25. Donc, il y a beaucoup d'informations liées à ces fameuses bornes d'ancrage-là. Ça va être déployé dans 10 villes dans le monde. Montréal est la seule ville canadienne. Donc, c'est une fonctionnalité de plus pour faciliter nos transport à bicyclette. C'est loin d'être inintéressant parce que c'est vraiment le vélo, une façon de se déplacer très, très efficace en ces temps de COVID où des fois, il y a des entraves automobiles évidentes.
Bon, dans cette vague d'achats locaux, on propose un accord bière-jeux vidéo.
Ah, et là, si tu voyais ce large sourire que j'ai, Louis, en ce moment. Peut-être qu'on s'éloigne un peu de la techno quand il est question de bière, mais c'est un difficile travail, il faut que quelqu'un le fasse. Alors, je me suis porté volontaire. C'est un petit segment que j'appellerais un segment brassico-ludique.
Ah oui, donc.
Alors, je te parle de la microbrasserie Pixel, d'abord et avant tout, qui est une microbrasserie quand même assez rigolote parce que eux, essentiellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des bières et en se laissant inspirer par la culture populaire, surtout les jeux vidéo. Ils ont sorti une ping-pong IPA avec vraiment un visuel sur les canettes de bière du bon vieux jeu Pong. Ils ont sorti une bière aux pêches qui s'appelle Safe Peach, Peach étant le nom de la princesse dans Mario. Ils ont une Dark Side of the Stout avec un clin d'œil à l'Empire, le côté sombre dans Star Wars. Et aujourd'hui, ils ont fait une association avec Tribute Games, qui est un petit studio de 14 personnes, un studio montréalais de jeux vidéo, et ils ont sorti la Panzer Paladin IPA, une bière de 6 % d'alcool, parce qu'aujourd'hui sort ce jeu Panzer Paladin, qui est un jeu de Tribute Games. C'est un jeu qui va vous replonger visuellement et aussi de manière audio. Écoutez ça. Dans les jeux, je dirais, fin 80, début 90.
Ouais, avec l'espèce de son un peu électronique, là.
Le visuel est exactement comme ça aussi. On est en visuel 8 bits, c'est en plein ça, Louis. Et je t'ai dit à quel point j'avais plus le temps de jouer à des jeux vidéo. Je dois t'avouer que j'ai passé plus de 2 heures à jouer à Panzer Paladin qui sort aujourd'hui. J'ai adoré ce jeu. Écoute, on est à quelque part entre Mega Man, DuckTales, une espèce de truc qui va vous rappeler Goldorak. Le personnage principal, l'héroïne là-dedans s'appelle Flamme, donc sans nous rappeler le Capitaine Flamme aussi. C'est science-fiction, on contrôle un gros robot. C'est sur Nintendo Switch et c'est sur la plateforme Steam. Donc, c'est une association parfaite où ici, la microbrasserie Pixel n'a pas eu à faire analyser par un avocat son visuel de canette de bière pour être certain de ne pas enfreindre des droits d'auteur. C'est une association entre la bière et un jeu vidéo qui sort aujourd'hui. Dans les deux cas, c'est québécois. Évidemment, moi, ce qui m'intéressait davantage, c'était le jeu vidéo. Mais par souci professionnel, Louis, j'ai testé le jeu et la bière.
Ben, t'as bien fait.
Et Eh bien, écoute, et cet après-midi, je vais sûrement me désaltérer encore avec une petite demi-heure de jeu et une petite gorgée de cette Panzer Paladin.
Ben, je te le souhaite.
Hey, merci. Je t'en enverrai le 8 août quand les vacances commenceront.
Exactement. Merci beaucoup, mon cher Mathieu.
Salut, Louis.
Salut.